Seigneur, nous sommes prêts à t'obéir. Ce n'est pas seulement un chant, mais c'est un engagement que nous prenons. Nos cœurs sont ouverts à ta parole. Te disons merci pour le don de ce texte qui porte ta vie. Ce texte qui porte ta vie et qui l'a porté à travers les générations et qui nous parvient aujourd'hui avec la même vie. Te disons merci pour cette parole que ton esprit vivifie chaque jour. Cette parole que ton esprit renouvelle chaque jour. Pendant, Seigneur, que nous écoutons ton esprit, nous prenons l'engagement que nous sommes prêts à t'obéir. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons très fort notre Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur encore aujourd'hui et d'avoir le privilège de partager la parole de Dieu. Et je suis convaincu que le Seigneur va tous nous bénir. Dis à ton voisin, le Seigneur va te bénir. Pour que tu sois une bénédiction, dis-lui ça. On est béni pour être une bénédiction. Les bénédictions du Seigneur ne sont pas là pour s'arrêter à nous, mais les bénédictions du Seigneur sont là pour passer au travers de nous et pour atteindre son peuple. La Bible dit que la bénédiction du Seigneur, c'est comme la rosée qui descend de la montagne sur la tête et sur le vêtement du sacrificateur. Donc cette bénédiction doit toujours descendre et passer. Toute bénédiction que Dieu te donne aussi l'opportunité de la passer à d'autres personnes. Félicitations tout le monde pour avoir participé dans la semaine de Jean le Baptiste. Est-ce que nous pouvons nous acclamer pour le travail que nous avons abattu de l'évangélisation? Et pendant aujourd'hui que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette campagne, je prie que cet esprit d'évangélisation reste avec nous. Que l'évangélisation ne passe seulement quand on les décrète, mais que ce soit un mode de vie que nous vivons chaque jour. Le sujet d'aujourd'hui, c'est transformer pour transformer. Comment nous pouvons être transformés avec l'objectif de transformer les autres? Transformer pour transformer. Pas transformer pour être des pièces à admirer, mais transformer pour que nous puissions passer cette transformation à d'autres personnes. Je vais commencer par une question et je voudrais vraiment que vous puissiez coopérer avec moi dans votre imagination. Je voudrais que chacun d'entre vous imagine une table. OK? Qui n'a jamais vu des tables, maison? Tout le monde a déjà vu au moins une table. OK, imaginez une table. Chacun a une table dans la tête, dans son imagination. Elle est grande, elle est petite. OK, maintenant je vous pose la question. Si je vous donnais les moyens financiers de reproduire la table que vous avez imaginée et je vous donnais les compétences d'un menuisier de reproduire la table que vous avez imaginée, combien de tables on aurait dans ce temple? Ce n'est pas une question à trappe, nigonnez pas peur, ce n'est pas à l'école. Donc, répondez seulement. On aurait combien de tables si j'ai donné à chacun les compétences d'un menuisier pour produire la table que vous avez imaginée et les moyens? Combien? OK, plusieurs, ce n'est pas un nombre. Je veux combien? Bon, bien sûr, on ne peut pas avoir les nombres, mais on aura autant de tables que nous sommes ici. Le nombre de tables que nous allons produire va être exactement le nombre de personnes qui sont là, parce que je suis très sûr que chacun d'entre vous a imaginé une table différente. Il y a des tables qui sont sales, que certains ont imaginées. Il y a d'autres tables propres, il y a d'autres tables qui ont des fleurs. Certains ont imaginé des tables en bois, d'autres en table en plastique. Chacun d'entre nous a imaginé quelque chose. Regardez toute cette table. C'est une table, n'est-ce pas? Maintenant, je veux que vous remplaciez la table que vous aviez en tête avec cette table que nous venons de projeter. Est-ce que c'est fait? Le remplacement est fait? Téléchargement rapide? Alors, si je vous demandais, je vous donnais les mêmes moyens et les compétences pour reproduire la table que nous venons de projeter, je suis sûr qu'on aura autant de tables que nous sommes ici, mais toutes les tables vont avoir la même forme et vont avoir presque la même image. Vous savez pourquoi? Parce que nous tous, on aura la même table en tête que nous voulons reproduire. On est ensemble jusque-là. Suivez très bien, nous avons déjà commencé la prédication. Donc, dans la première question, chacun a imaginé sa table. Vous étiez libre d'imaginer la table que vous voulez. Dans la deuxième illustration, je vous ai donné une image de la table que je veux que vous puissiez reproduire. Cette table ici. Et cela nous donne, nous tous, nous pouvons utiliser cette table pour dire « celui-ci n'a pas bien fait, ouais, ou le chinois ». Mais dans la première question, est-ce qu'on pouvait disqualifier quelqu'un qui l'a échoué? Non. Parce que si là, vous vous dites que vous avez mal fait la table, il va vous dire « c'est la table que j'ai imaginée ». Donc, dans le premier cas, personne ne peut échouer parce que tout le monde a imaginé la table. Mais dans le cas où on vous donne un exemple, nous avons quelque chose avec laquelle comparer pour savoir si tu as bien fait ou si tu as mal fait. Nous parlons de la transformation. Si nous voulons commencer ce voyage de transformation, nous devons nous poser la question, transformer pour être quoi? Pour être qui? Parce que si cette question n'est pas répondue, nous allons tous être sur le voyage de la transformation, mais à la fin, nous allons produire différents types de personnes. Parce que nous n'avons pas une image finale de ce que nous voulons à la fin de ce processus de transformation. C'est pourquoi il y a des visions. Gomaville, nous sommes une église en bonne santé pour la transformation de quoi? De la société. Ça signifie que quand nous mettons la vision, nous mettons l'image de ce que nous voulons reproduire. Dans ce processus de transformation où nous nous transformons et nous amenons les autres à être transformés, nous devons avoir l'image finale. Et la Bible nous a déjà donné cette image. Si vous lisez dans Colossiens 1:9, la Bible qui dit que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu comment? Invisible. Dieu est invisible. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. D'ailleurs, les 10 commandements, les 3 premiers commandements nous interdisent formellement d'imaginer quelque chose qui ressemble à Dieu. Donc, vous êtes interdit d'imaginer Dieu. Et maintenant, si vous voulez devenir comme Dieu, vous avez devenir comment et comme quoi? Alors que vous êtes interdit d'imaginer même comment il ressemble. Et pour que Dieu nous aide, il nous donne l'image de son invisibilité, il nous donne l'image visible. Ce qui signifie que si nous voulons être comme Dieu, Dieu dit, soyez comme mon fils, comme Christ. C'est ça l'image finale que nous voulons reproduire dans chacun d'entre nous, dans moi et dans chacun d'entre nous, l'image de Christ. Maintenant, quand le Seigneur a été ici, il n'y avait pas de photo. Donc, personne n'a pris sa photo, donc on ne sait pas à quoi il ressemblait. Je suis très certain qu'il ressemblait à quelqu'un comme moi. Ce n'est pas très confirmé, mais bon, on peut m'utiliser comme illustration. Parce que votre voisin, je ne suis pas sûr. Peut-être vous, mais votre voisin, bon, on n'est pas testé. Alors, comme on n'a pas cette image et Dieu nous demande d'être comme son fils, ça veut dire qu'il ne nous demande pas d'être comme lui physiquement. Il doit y avoir quelque chose d'autre à laquelle Dieu nous appelle à ressembler. Et c'est ça ce que nous allons chercher à voir aujourd'hui. Je vais vous donner 3 choses sur lesquelles, si tu travailles, tu vas développer l'image de Christ. 3 choses sur lesquelles tu peux te mesurer pour voir est-ce que je suis en train de progresser pour reproduire l'image de Christ en moi ou est-ce que je suis en train de rentrer en arrière. 3 éléments, je pense, qui vont nous aider à développer cette image de Christ. Et cela va nous aider à nous transformer pour être comme ces images et à transformer les autres comme, pour être comme cette image. Dieu ne nous appelle pas à faire des disciples selon nous. Il nous appelle de faire des disciples selon lui, selon le Christ.
Il y a beaucoup de gens qui veulent faire le discipulat, mais ils veulent que les disciples deviennent comme eux. Non, le disciple n'est pas sauvé pour être comme toi. Il est sauvé pour être comme le Christ. Il n'est pas sauvé pour être comme une personne de ta tribu. Il est sauvé pour être comme le Christ. Il n'est pas sauvé pour ressembler à quelqu'un qui réfléchit comme toi. Non, il est sauvé pour ressembler à Christ. Et nous tous, nous pouvons ressembler à Christ malgré nos différences de caractère, d'âge, de sexe ou d'autres choses. Nous pouvons le ressembler. Et je pense que ces trois clés vont nous aider à développer ce que Dieu attend de nous dans ce processus d'être transformé et d'amener les autres à la transformation. Alléluia. Alors, la première des choses que nous devons développer, c'est de développer l'attitude et la mentalité du Christ. Développer l'attitude et la mentalité du Christ. On peut le dire ensemble, un des trois. Développer l'attitude et la mentalité du Christ. Encore une fois, un des trois. Développer l'attitude et la mentalité du Christ. On va le dire encore en haute voix comme si on le croit. Un des trois. Développer l'attitude et la mentalité du Christ. Si nous voulons être comme Christ, nous devons savoir quelle était son attitude, quelle était sa façon de réfléchir. Parce que c'est sa façon d'être et de réfléchir qui fait de lui ce qu'il est. Lisons Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Si vous avez trouvé, dites Amen. Si vous avez trouvé dans la Bible, dites Amen. OK. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. La Bible nous dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » C'est comme ça que Paul commence. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, et devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent, tout dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est la parole du Seigneur. Ici, Paul écrit aux Philippiens, une église qu'il n'a jamais visitée. Il a seulement appris des bonnes choses que les Philippiens sont en train de faire. Et Paul n'a pas créé cette église. Mais il est tellement impressionné qu'il va écrire une lettre aux Philippiens pour les encourager à continuer dans la marche qu'ils sont en train de faire. Et il va leur dire, ce que je vous demande, c'est de développer l'attitude et la mentalité qui était en Christ. Et il va le dire comme ça. Il était égal à Dieu, mais n'a pas considéré cette égalité comme un privilège. Il s'est humilié pour servir l'homme et Dieu l'a élevé. Voici un peu le résumé de la mentalité du Christ. Il a un privilège, il laisse ce privilège, mais il laisse ce privilège non pas seulement pour le laisser, mais en laissant ce privilège pour qu'il soit un bon serviteur. Un serviteur à Dieu et un serviteur aux hommes. Et il attend à cette position de serviteur pour que Dieu lui-même l'élève et l'exalte. Amen. C'est ça l'attitude du Christ. Si nous voulons ressembler à Christ, nous devons dire, est-ce que nous nous mettons avec humilité dans la position du serviteur? Est-ce que je me mets avec humilité dans la position du serviteur? Et ce serviteur n'est pas seulement un serviteur spirituel, c'est un serviteur à Dieu et un serviteur aux hommes. Christ, en prenant la forme humaine, ne l'a pas pris seulement pour se faire plaisir, mais c'est parce que cette forme-là était celle qui le permettait d'agir dans ce monde. Alléluia. Christ, en prenant le corps, il se donne la permission d'agir et de servir Dieu et de servir l'homme. Tu as le corps que Dieu t'a donné. Est-ce que ce corps-là te met dans la position d'être un bon serviteur et d'agir pour servir Dieu et d'agir pour servir l'homme? Le corps que nous avons n'est pas pour la beauté seulement, mais c'est parce que c'est un outil d'agissement, c'est un outil d'agir. Quand tu perds ton corps, nous appelons ça la mort. Tu ne peux plus agir quand tu perds ton corps. C'est ce que nous appelons en d'autres termes la mort. Certains d'entre vous ont des contrats. Chaque contrat sérieux que vous signez, il y a toujours une clause. Les contrats s'arrêtent immédiatement si vous mourrez. Ça signifie que vous allez perdre la capacité d'agir. Et ici, Christ prend le corps, pas seulement pour se réjouir, mais pour avoir la capacité d'agir en tant que serviteur. Donc le corps que Dieu nous donne, il nous donne la permission et la capacité d'agir pour être des serviteurs à Dieu et à des hommes qui sont autour de nous. Et dans cette position de serviteur, nous voyons à partir du verset 11 que Jésus s'humilie jusqu'à ce que Dieu lui-même décide de l'exalter. Les serviteurs, serviteurs qui s'humilient jusqu'à l'exaltation du Père lui-même. Le problème avec nous est que la plupart des temps, les gens veulent s'exalter. Mais nous voyons ici avec l'attitude de Christ que le service vient avant l'exaltation. Mais cette exaltation, c'est Dieu qui décide de la donner. Donc la première des choses, si nous devons ressembler à Christ, nous devons savoir comment développer la mentalité et l'attitude du Christ qui fait de nous des serviteurs, mais aussi qui fait de nous des serviteurs qui attendent devant Dieu pour que lui-même puisse décider de notre exaltation. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant, je pense que nous le déclarons tous les jours. Il n'y a pas un nom le plus puissant que le nom de Jésus-Christ. Mais quelle est la source de cette puissance? Est-ce que c'est parce que les noms sonnent bien? Non, ce n'est pas parce que le nom de Christ sonne bien. Il y a des noms qui sonnent mieux comme Mouine. Bon, comme votre nom. Il y a des noms qui sonnent mieux. Christ. Mais ce n'est pas, la force n'est pas dans les lettres. La force n'est pas dans la façon dont les noms sonnent. Toi-même, tu peux te donner le nom de Christ si tu veux. Et ça n'aura aucune puissance. Allô? Est-ce que vous savez, il y a des pays où les gens s'appellent Jésus? Oui. Nous avions un consultant qui venait travailler avec nous quand j'étais chez Tiafan. Son nom, c'était Jésus. Un jour, notre chef vient parce qu'il allait venir nous visiter. Il nous dit, mes chers amis, Jésus vient bientôt. Et on s'est dit, mais Jésus va venir. Il vient ici chez Tiafan la semaine prochaine. Et effectivement, Jésus est venu. Et au bureau, on l'appelait Jésus. Bonjour, Jésus. Bonjour. Mais son nom de Jésus n'a pas eu d'effet sur nous parce qu'il portait ça seulement comme un nom. Il ne pouvait pas porter la puissance qui est dans ce nom. Pourquoi le nom de Jésus-Christ porte la puissance qu'elle porte? Parce que ce n'est pas un nom, c'est une récompense. Ce n'est pas un nom que Dieu lui a donné. Il lui a donné une récompense. Si vous lisez au verset 11, après s'être humilié, après les sacrifices qu'il a donné, c'est pourquoi Dieu l'a souverain et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc quand Jésus grandissait comme Jésus, ses noms n'étaient pas puissants. Sa mère pouvait lui dire, oui, imaginez que tu sois Marie, comment tu pouvais appeler ton propre fils? Comme on appelle les autres enfants dans la maison, n'est-ce pas? Mais ses noms n'avaient pas cette puissance-là. Mais quand il a fait le travail que le Père lui avait demandé, il lui donne le nom de Jésus-Christ comme une récompense. C'est pourquoi quand tu invoques le nom de Jésus, tu n'invoques pas seulement le nom, tu invoques les sacrifices que Christ avait fait. Alléluia. Et c'est ce qui lui donne la puissance. Ce n'est pas seulement comment le nom sonne. Et c'est pour cette raison même que vous pouvez prier pour les démons au nom de Jésus-Christ, ils ne vont pas partir. Parce que le nom que tu prononces, c'est seulement le nom C-H-R-I-S-T. Ça, c'est Christ, c'est pour ceux qui n'ont pas compris. C'est seulement ça. Mais tu ne l'as pas invoqué en invoquant les sacrifices qu'il a fait et la puissance qui est derrière ce nom. C'est pourquoi même Paul, il y a des gens qui étaient partis chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Les démons se sont arrêtés, ils les ont regardés, ils les ont posé la question. Ok, vous venez d'où? On connaît Paul, on connaît Jésus et les autres. Vous êtes qui? Oh, nous sommes les enfants du prophète. Les démons les ont tabassés. Ils sont partis de là à moitié nus. Parce qu'ils ont utilisé un nom sans savoir la puissance qu'ils portent. Est-ce que tu connais la puissance que le nom de Jésus porte? Le nom de Jésus, c'est une récompense. Et je vous pose maintenant la question. Quel est le poids que ton nom porte? Quel est le poids que ton nom porte? Est-ce que ton nom a un poids? Est-ce qu'on peut invoquer ton nom quelque part et les portes s'ouvrent? Allô? Est-ce que quelqu'un peut aller avec ton nom dans un bureau avec un papier où tu as signé ton nom? Il présente seulement les papiers et on ne va pas lui poser la question. Parce que tu as un nom qui porte quelque chose. Allô? Vous savez qu'il y a quelqu'un qui peut venir ici et vous dire, tel me demande, par exemple, j'ai ce téléphone ici. Mon épouse peut envoyer quelqu'un dire, demandez à Mouino de vous donner ce téléphone. Qui vous a envoyé ses grâces? Je lui donne le téléphone. Parce qu'elle vient au nom de quelqu'un. Il vient au nom de quelqu'un. Imaginez que l'un de vous vienne dire, donne-moi ton téléphone. Je vais lui poser la question, ok, pourquoi? Au nom de qui? Le nom peut être une clé ou un cadenas. Il y a des noms qui sont devenus des cadenas parce que tu as tellement créé des problèmes que quand on prononce ton nom quelque part, les gens, comment il y a où le vichier parle? Donc toi et la personne allez sauter d'ici. Allô? Imaginez maintenant que tu sois un parent, tu as un nom pareil dans la ville de Gom. Ton enfant arrive dans un bureau et dit, mon nom c'est... Ne citez pas le nom des gens. Je voulais imaginer un nom qui n'existe pas ni Meikos. Mon nom c'est Natasangu par exemple. Il prononce un nom, on lui regarde, on lui dit, papa, comment t'habitues à Korudi? Non, moi je suis comme ça, j'ai étudié à combien, comment t'habitues à Toka? Parce que les noms qui t'ont procédé ont été des cadenas et pas des clés. Mais il y a des gens qui peuvent investir dans leur nom, que ce nom devient une clé. Que les enfants des enfants des enfants peuvent vivre par ce nom. C'est de la même façon que nous avons la puissance à travers le nom de Jésus. Combien de millions de personnes vivent par cette puissance à prononcer seulement le nom de Jésus? C'est à travers le même processus que nous sommes fils d'Abraham. Et quand tu te déclares fils d'Abraham, Dieu a une relation différente avec toi seulement parce que tu as évoqué le nom d'Abraham. C'est à cause du sacrifice qu'Abraham a fait. Et ton nom, il porte quel poids? Si on prononce mon nom quelque part, ça peut ouvrir quel genre de porte? Pour mes enfants, pour mon pays. Mes chers amis, voyagez à l'extérieur du pays, vous allez trouver que notre nom du Congo est devenu un cadenas sur beaucoup de choses. Tu dis, je suis Congolais, tout le monde commence à voir là où son argent se trouve. Ça, c'est un cadenas. Nous devons changer cela. Nous devons avoir un pays. Quand tu dis, tu montres un passeport congolais, tout le monde commence à sourire. Hey, Jambo Bab. Aujourd'hui, tu montres un passeport congolais, on doit le revérifier 4 fois. Le passer dans le scanner, Banaiparura Kidogo. Tu te dis, mais pourquoi tout ça? Parce que les gens qui nous ont précédés ont terni notre nom. Le nom de Jésus. Si nous devons être comme le Christ, nous devons développer l'attitude et la mentalité du Christ. Lui qui était dans la même nature, Dieu n'a pas considéré l'exaltité avec Dieu comme quelque chose à tenir fort, mais s'est dépouillé lui-même et devenu serviteur jusqu'à accepter de mourir à la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur, encore pour la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est notre premier point. Si tu veux ressembler à Christ, si tu veux aider les autres à ressembler à Christ, développer la mentalité et l'attitude du Christ. Dis à ton voisin, développe la mentalité et l'attitude du Christ. Le deuxième point, c'est développer le caractère du Christ. Nous venons de parler de développer la mentalité et l'attitude du Christ. Développer le caractère du Christ. Devenir comme le Christ, ce n'est pas seulement de développer sa réflexion, son attitude, mais c'est de développer les fruits de l'esprit qu'il a vécu et qu'il a montré. Nous connaissons Galates 5, 22 qui dit, mais les fruits de l'esprit, c'est quoi? La joie, l'amour, la patience, la tempérance, ils sont 9 fruits que nous devons montrer si nous sommes en train de devenir comme le Christ. Développer le caractère du Christ. Donc, au-delà de la mentalité de réfléchir comme Christ, nous devons voir à toi l'évolution du caractère du Christ en toi. Nous devons voir que les fruits de l'Esprit sont en train de mûrir dans ta vie. Amen. On parle des fruits de l'Esprit. Nous connaissons tous des fruits, n'est-ce pas? Combien d'entre nous ont déjà essayé de manger un fruit cru? C'est comment? C'est le même fruit, mais c'est cru. C'est amer, n'est-ce pas? Et pour certains, vous le jetez. En anglophone, j'ai donné l'exemple d'une mangue. Vous avez déjà essayé de manger une mangue crue. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez ajouté du sel, n'est-ce pas? Pour essayer d'atténuer. Il y a des gens qui sont compliqués. Mais quand même, si pour nous qui sommes normaux, hein, pour les autres, nous qui sommes normaux, à part les autres, moi j'ai même déjà vu quelqu'un en train de mâcher l'aloe. Donc, il y a des gens qui sont comme ça. Donc, il prend l'aloe, il commence à mâcher comme ça. Il dit que c'est un médicament. Je n'ai jamais compris ça. Alors, ça, ce sont des gens qui sont anormaux. Mais pour nous autres ici, nous autres, on mange un fruit mûr et pas cru. Non, mûr. Mûr et... Hein? Non. Je suis ravi d'avoir plusieurs prédicateurs ici qui sont en train d'aider. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse et qu'il passe cette onction à vous aussi et à votre voisin. Alors, les mêmes fruits que tu mangeais et tu sens que ce n'est pas bon, donne les fruits une semaine, deux semaines. Tu vas les voir même de loin, tu vas penser que c'est le fruit que Adam et Ève avaient mangé. Parce que ça va t'attirer et tu vas dire, waouh, ça c'est quelque chose. Les fruits de l'esprit, c'est la même chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens, mais qui ont des fruits qui ne sont pas encore mûrs. Vous essayez de les manger, bon, d'être avec lui, vous ne savez pas. Il est chrétien ou il n'est pas chrétien? L'amour est encore douté. Vous ne savez pas si l'amour est un peu violent, tout ça. Vous ne savez pas s'il aime ou s'il n'aime pas. La patience, ça fluctue. Lundi, il est patient. Mardi, il n'est pas patient. Ça dépend des humeurs, de comment il a porté les habits. Tout ça, ce sont des fruits qui ne sont pas mûrs. Tu ne peux pas avoir des fruits où on ne sait jamais les pieds sur lesquels tu t'es réveillé. C'est les pieds sur lesquels tu t'es réveillé où les gens doivent s'ajuster sur comment ils doivent réagir. Nous devons avoir des fruits qui sont mûrs. Parce que c'est cela qui va aider à développer le caractère du Christ et attirer plusieurs vers lui. Comment nous développons l'Esprit du Christ? Ce n'est pas par la prière seulement, mais c'est par l'action en agissant dans des situations. Il y a un auteur qui a dit que si Dieu veut que tu développes un fruit quelconque, il te met dans la situation où tu dois exercer ce fruit-là. Si Dieu veut que tu développes l'amour, il va te mettre avec quelqu'un qui est difficile à aimer. Vous savez qu'il y a des gens qui sont difficiles à aimer. On a pu mon assez marayou. Moi aussi, je suis une personne. Et pendant que tu fais l'effort d'aimer cette personne, tu es en train de développer le fruit de l'amour. La patience. Si Dieu veut te développer la patience, il ne veut pas verser ça comme de l'eau, caca, patience. Non. Il va te mettre dans une situation où il faut être patient. Et pendant que tu fais l'effort de la patience, ce fruit de la patience-là commence à se développer. Tu vas aller dans un bureau de l'État où un document doit faire 10 minutes. Ça te prend 2 semaines. Et après ces 2 semaines, tu découvres que quelqu'un a récemment regardé ta tête et a décidé que tu devrais attendre. Sans raison aucune. Oh, ben, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Tu te dis, mais c'est comment? J'ai dit toujours au vent, il y a des fruits que si tu viens au Congo, tu dois développer pour survivre. Le fruit de la patience et de la foi. Donc, il y a des fruits qui sont vitaux. Hein? Un fruit vitaux. En RDC. Amen. Dis à ton voisin, il y a des fruits qui sont vitaux. Pour vivre et pour survivre en RDC. Ce que signifie, mes chers amis, regarde ta vie. Dans les situations dans lesquelles Dieu est en train de te placer, quel fruit Dieu veut que tu puisses développer? Si les 9 fruits, la foi, la tempérance, la patience, l'humilité, quel fruit? Tu as une promotion qui fait que tout le monde t'admire. Dieu te demande d'exercer l'humilité. Tu es dans une situation où tout le monde te néglige. Dieu te demande de développer la fortitude. Tu es dans une situation difficile, des maladies. Comme la situation du Congo, je pense que nous tous, Dieu nous demande de développer la foi. La foi qui peut voir le mal et continuer à croire. La foi qui peut voir les atrocités et dire comme Job, même s'il me tue, je vais continuer à croire en lui. C'est Job qui a dit ça. Quand tout le monde lui disait, Job, réunissez Dieu, mère. Job les a dit, même si Dieu lui-même me tue. Et en anglais, ça dit bien, even if he slays me, I will still trust him. Slay, c'est tuer par l'épée. Même s'il me tue par l'épée, c'est cette version qui est dit en anglais, je vais continuer à lui faire confiance. Alors pour dire, mes chers amis, nous avons dit le premier point, c'était quoi? Développer. Deuxième point, le caractère du Christ. Le dernier, c'est faire les actes du Christ. Faire les actes du Christ. Développer l'attitude et la mentalité du Christ. Développer le caractère du Christ. Faire les actes du Christ. Ressembler à Christ n'est pas seulement quelque chose qui doit rester dans les logiciels, dans l'immatériel, mais ça doit se traduire par nos actions. Et ces actions-là peuvent être catégorisées en actions de miséricorde et actions de compassion. Faire des actions de miséricorde et des actions de compassion. Nous voyons dans Jean chapitre 13, verset à partir du 12e verset, où Jésus lave les plaies de ses disciples. C'est le seul endroit dans la Bible où Jésus demande que les disciples l'imitent. Il dit que moi, en tant que maître, j'ai lavé vos pieds. À combien plus forte raison vous devriez laver les pieds les uns les autres? Imitez-moi. Et il leur dit que vous savez que les dirigeants des païens, ils se font comme des chefs sur leur sujet. Mais moi, je vous demande que vous soyez des serviteurs de tout le monde. Les actes de Christ sont les actes de compassion et les actes de miséricorde. Et nous voyons dans la vie de Christ qu'il ne montrait pas seulement la compassion et la miséricorde aux riches, aux pauvres, il montrait à tout le monde. La plupart d'entre nous, nous sommes miséricordiers et compatissants seulement envers les pauvres. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas la nourriture, on sait, yo, dit, tu donnes. Mais est-ce que tu peux voir quelqu'un qui est millionnaire en dollars américains et avoir la compassion de cette personne? Pas millionnaire en francs congolais. Je sais que la semaine passée, tout le monde est devenu millionnaire en francs congolais. Il faut juste appeler 500 dollars fois les taux, tu es millionnaire. Mais un millionnaire en dollars américains, combien de gens peuvent s'asseoir avec cette personne et continuer à être compatissants avec cette personne, malgré son opulence, malgré sa richesse? Nous voyons ça dans la vie de Jésus. Il pouvait s'asseoir avec quelqu'un comme Nicodème, qui avait tout et qui avait toute la connaissance, mais être compatissant. Il pouvait s'asseoir avec un jeune homme qui avait réussi sa vie, avait tout accompli et toujours être compatissant. Il pouvait aller aux pauvres, il pouvait être avec les prostituées, il pouvait être avec les riches et avec les pauvres, mais son cœur de compassion et de miséricorde est resté intangible et inchangeable. Et il y a deux personnes que je vais vous recommander que vous appreniez à montrer la miséricorde et la compassion. Souvent, nous avons tendance à montrer la miséricorde et à la compassion aux personnes qui sont loin. Mais je veux que vous puissiez d'abord commencer à montrer la miséricorde et la compassion à vous-même. Vous êtes aussi l'enfant de quelqu'un. Ou comme Toto Yabatu. Apprenez à vous montrer la miséricorde et la compassion. Apprenez à être patient avec vous-même, avec votre croissance, avec votre évolution financière, avec votre évolution dans la carrière, avec votre évolution dans les couples. Il faut apprendre à vous montrer vous-même la compassion et la miséricorde. Vous êtes aussi une créature de Dieu. Allô? Souvent, nous pensons que la miséricorde et la compassion sont toujours extérieures. Mais nous sommes aussi, nous avons besoin de cette miséricorde et cette compassion. Et ça doit d'abord venir de nous. La deuxième groupe de personnes que je veux que tu puisses montrer la miséricorde et la compassion, ce sont les personnes qui sont immédiatement autour de vous. Votre femme, votre enfant, votre conjoint, votre siblings, les personnes avec lesquelles vous êtes nés, les autres, essayez de montrer la compassion. Souvent, le cœur devient lourd et dur vis-à-vis des personnes avec lesquelles nous vivons chaque jour. Parce qu'il y a tellement de conflits, tellement d'antécédents qu'il nous est facile de montrer la miséricorde aux gens qui sont loin que de montrer aux gens qui sont les plus proches, vos collaborateurs du travail. Est-ce que tu peux les regarder aujourd'hui différemment et dire comment je peux montrer la miséricorde et la compassion à cette personne. Cela peut se traduire en action par un don, ça peut se traduire en action par une visite, ça peut se traduire en action par un appel, ça peut se traduire en action par beaucoup de choses. Mais nous devons faire les actes du Christ. Premier point, nous avons dit, je n'attends pas, premier point c'est quoi? Développer la mentalité et l'attitude de Christ. Deuxième point, développer le caractère du Christ. Et le troisième, faire les actes du Christ. Si vous êtes capable d'avoir, de penser comme Christ a pensé, de développer sa mentalité, son attitude, à travers les services à l'homme et à Dieu, et à travers attendre l'exaltation de Dieu dans sa souveraineté. Si vous êtes capable de développer le caractère du Christ et utiliser le fruit de l'esprit comme un christiomètre, vous connaissez un christiomètre? C'est une mesure de voir si tu es chrétien ou pas. Je l'ai à la maison. Un christiomètre. Je vous donne un christiomètre, mes chers amis. Prenez ce fruit de l'esprit et allez vous donner sur 10, vous vous donnez combien? Et quand vous aurez fini, donnez cette feuille à votre épouse ou à quelqu'un de proche qui puisse vous récolter. Vous allez voir qu'il va donner moins de points. Développez, prenez ce christiomètre, prenez ce fruit de l'esprit et dites comment je suis en train de grandir. Posez-vous la question, dans les choses que je suis en train de traverser dans ma vie, quel fruit le Seigneur veut que je puisse développer? Allô? Certains d'entre vous traversent des situations difficiles que vous avez besoin de toute l'aide nécessaire. Quel fruit Dieu veut que je puisse développer? Quand j'étais à l'université, on avait un ami qui dirigeait notre groupe d'intercession. Tu sais, les étudiants qui étaient très, très chauds. Lui nous disait que ses problèmes, les démons qu'il combat pendant une semaine, nous tous, l'Église, on ne peut pas les combattre. Il disait que lui seul, les problèmes qu'il a et les démons qu'il combat, nous tous, on ne peut pas les combattre. Bon, on était jeunes, on disait amen. Mais quand j'y réfléchis aujourd'hui, je me dis, quelle est la logique qui était derrière cette réflexion? Mais quand même, il voulait dire ceci. Il y a certaines personnes qui traversent des situations où tu penses que tu es le seul qui a des problèmes. Mais j'ai une information pour vous, mes chers amis. Chacun que vous voyez ici qui est déjà sapé a des problèmes. Derrière ces sapes que vous voyez, ces Français, il y a des problèmes. Allô? La question, c'est de savoir quel fruit de l'esprit Dieu veut que tu développes dans l'étape où il te trouve dans ta vie. Parce que c'est là qui va t'aider à être comme le Christ. Et finalement, il faut faire les actes du Christ. Réfléchis comme Christ. Behave like Christ. Comporte-toi comme Christ et agis comme le Christ. Maintenant que nous clôturons cette semaine de Jean le Baptiste, nous sommes appelés à être transformés pour transformer. Je viens de vous donner l'image finale de ce que nous voulons. Nous voulons être transformés pour être comme le Christ. Et nous voulons que les autres soient transformés pour être comme le Christ. Développez ces trois domaines. Et je peux vous promettre, mes chers amis, que votre vie va être une fontaine de bénédictions. Développez ces trois domaines. Et je peux vous promettre, par l'intégrité de la parole du Seigneur, que votre vie va être une bénédiction. Travaillez sur le fruit de l'esprit, sur les actes de compassion et d'amour, sur les services dans l'humilité. Et je peux vous promettre sur l'intégrité de Dieu que votre vie va être une bénédiction dans cette génération. Donc, allons tous, mes chers amis, pour à ce voyage de transformation, mais cherchons aussi à amener les autres à cette transformation. Que le Seigneur vous bénisse et qui bénisse sa parole. Amen.